Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité. On est sur l'émission Sortir du capitalisme, une nouvelle émission de Sortir du capitalisme qui est consacrée aujourd'hui à une analyse critique de la pensée et des thèmes abordés par Étienne Chouard. Et on est avec Armand Paris. Donc bonjour Armand.
Bonjour.
Donc Étienne Chouard, donc c'est, je rappelle brièvement qui c'est un enseignant français qui est enseignant d'économie et de gestion dans un lycée à Marseille. Et il est principalement connu comme blogueur. Et il bénéficie d'une notoriété grandissante depuis 2005. Parce qu'en 2005, en fait, il a argumenté pour le non à l'occasion de la campagne du référendum français sur le traité pour une constitution européenne. Et donc, ses thèmes centraux, c'est le tirage au sort, l'idée qu'il faille une nouvelle assemblée constituante donc basée sur le tirage au sort. Et donc, depuis 2008, il est accusé d'avoir approuvé certains travaux de personnalités de droite, voire d'extrême droite, et de diffuser des théories du complot. Voilà, il trouve des qualités à des personnalités comme Thierry Messant, Jacques Cheminade, Alain Soral, Francis Cousin. Donc on pourrait le qualifier de confusionniste politique, c'est-à-dire d'avoir une rhétorique d'extrême droite, mais qui emprunte des thèmes appartenant a priori au bord opposé du champ politique pour masquer en fait un projet qui reste fondamentalement un projet d'extrême droite. Et donc voilà, ces thèmes mobilisés, c'est la critique du libéralisme, de l'Union européenne, la revendication de la démocratie directe, de l'écologie, la référence au peuple, etc. Mais toujours mêlés de façon plus ou moins explicite à un discours qui privilégie toujours l'adresse aux Français, le refus du mariage pour tous, l'indulgence pour le négationnisme d'un Faurisson, par exemple, une focalisation sur le sionisme, les complots juifs, etc.
Alors d'abord, je pense que c'est important de préciser pourquoi est-ce qu'on fait une émission d'analyse critique des idées d'Étienne Chouard. On ne fait pas cette émission parce que les idées d'Étienne Chouard seraient particulièrement originales ou seraient particulièrement développées. Évidemment, ça n'a pas le même statut qu'une analyse critique de la pensée d'Heidegger. Étienne Chouard est plutôt intéressant comme révélateur, comme concentrant un ensemble de thèmes qui finalement définissent assez bien ce qu'est le confusionnisme, ou du moins ce qui est une forme de populisme transversal, comme l'a appelé Anselm Japp, c'est-à-dire un populisme qui emprunte à la fois des thèmes à la gauche nationale étatiste, donc par exemple, historiquement, le PCF, le keynésianisme, le souverainisme de gauche, le patriotisme de gauche du 19e siècle, Jaurès et tout ça. Et d'autre part, des idées qui viennent plutôt historiquement de l'extrême droite, comme une critique du capitalisme qui se résume en fait à une critique de l'usure, de la finance, une critique de crise qui serait fomentée de l'extérieur. Voilà, donc je pense que la question est encore plus complexe que simplement... je ne pense pas que Chouard soit quelqu'un qu'on peut résumer à quelqu'un d'extrême droite qui se cache derrière des idées du populisme transversal. Ça serait plutôt le cas, du coup, d'Alain Soral. Mais quelqu'un qui, en fait... et fait partie de cette espèce de populisme transversal, qui est un peu, finalement, l'idéologie critique spontanée, sans faire de la sociologie de bas étage, mais on va dire des mecs blancs de classe moyenne, spontanément vont vers le populisme transversal, qui n'est pas que des thèmes d'extrême droite, malheureusement, mais aussi beaucoup de thèmes d'extrême gauche, par exemple l'anti-impérialisme pro-russe de Chouard, dont on parlera. Là, pour le coup, c'est clairement quelque chose qui est propre, qui est historiquement lié à l'extrême gauche nationaliste.
Et tu parles de populisme transversal, et effectivement, en fait, quand il luttait contre le projet de constitution européenne, donc il débattait depuis son blog avec chacune des deux mouvances en fait, qui refusaient ce projet, qui étaient donc la gauche radicale et l'extrême droite. Et la conséquence de cette victoire-là, c'est que du coup, depuis, il caresse le mythe de l'union des contraires contre le pouvoir en place. Et du coup, il se rapproche d'organisations d'extrême droite qui prônent également ce rapprochement avec l'idée qu'on pourrait réconcilier les extrêmes. Et c'est de ça qu'il tire son fameux slogan de dire au-delà de la gauche et la droite. Et effectivement, c'est donc un populisme transversal qui essaye de venir à la fois traverser des milieux de la gauche radicale comme de la droite radicale, en refusant de rendre des comptes sur ces appartenances-là. C'est-à-dire qu'il dit toujours « la lumière naît du choc des esprits, je vais piocher partout, là où je trouve des idées qui viennent conforter mes intuitions. Tout le monde est un humain, et donc tout le monde a une parole qui est valable. » Et donc, il refuse, en fait, de catégoriser ce qui serait des amis politiques ou des ennemis politiques, qui est quand même assez dangereux, quand même.
Ouais, alors, effectivement, son slogan est effectivement quelque chose qui est très prisé aujourd'hui, qu'on retrouve à la fois dans, finalement, effectivement, ces deux mamelles intellectuelles qui sont, d'une part, la gauche nationaliste, ce que j'appelle un peu ce qu'on peut appeler la gauche nationalitatiste. Donc, par exemple, Mélenchon, qui avait déclaré dans un tweet il y a quelques mois, il faut finalement le clivage le plus fondamental, entre guillemets, c'est plus vraiment le clivage gauche-droite, même s'il ne prétend pas qu'il est dépassé, Mélenchon. Mais disons qu'il dit le gros clivage, quand même, c'est peuple-oligarchie. Et donc là, on est typiquement dans la définition du populisme. Voilà, populisme dans le sens où c'est non pas qui se distingue. Pas que j'y sois favorable pour le coup, mais par exemple de l'ouvriérisme, qui est simplement la défense de la classe ouvrière. Là, c'est la défense du peuple contre la minorité, les 1%.
Dans une vision du coup complètement interclassiste, où en fait il y aurait une homogénéité du peuple sans lutte à l'intérieur de cette même catégorie-là, sans lutte de classe, de race, de genre, comme s'il y avait une catégorie comme ça homogène et complètement qui nie en fait les dynamiques de domination à l'intérieur même du peuple, quoi.
C'est ça. Et du coup, qui résume la domination à une espèce de corps étranger. Il y a une espèce... c'est pas nous, c'est les étrangers. Et ce qui nous est étranger, du moins, et c'est-à-dire, c'est la finance, la banque, et qui sont des thèmes qu'on retrouve, qui sont issus à la fois des thèmes de l'extrême droite, donc qui sont des thèmes historiquement antisémites, disons. Et à la fois des thèmes qu'on retrouve aussi dans l'idée de la gauche nationale étatiste depuis la Révolution française, où par exemple Robespierre, qui est une figure qui est revendiquée notamment par Étienne Chouard. Robespierre, l'ennemi, c'est la minorité d'aristocrates, contre-révolutionnaires et tout ça. Il n'y a pas de critique chez Robespierre de la bourgeoisie, ou alors une critique très marginale, dans le sens où il faudrait qu'ils s'enrichissent un peu moins. Et du coup, je pense que ce qui est important de préciser, c'est deux choses. C'est d'une part, rappeler quand même que cette idée du dépassement du clivage gauche-droite, comme on l'a vu récemment dans un ouvrage d'ailleurs qui a à peu près ce nom-là, d'Alain de Benoist, qui dit en gros gauche et droite, c'est fini. Il faut rappeler que cette idée ni gauche ni droite, que le clivage gauche-droite est terminé, c'est une idée historiquement qui vient de l'extrême droite plutôt. Voilà,
Tu peux expliquer pourquoi, comment, à quel moment s'est mobilisé dans l'extrême droite historiquement ?
Voilà, alors historiquement, les origines de cette volonté de dépassement, si on suit, alors même si ça ne va pas plaire à certains chouardiens, puisque je vais citer une référence, un historien israélien, voilà. Mais pour sa défense, il a quand même subi une tentative d'assassinat par par un Israélien d'extrême droite, donc on ne peut pas considérer que c'est quand même quelqu'un de... Voilà, c'est pas un néoconservateur, pour le coup. Donc, qui s'appelle Jif Sternel, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ni gauche ni droite, l'idéologie fasciste en France », qui, lui, fait remonter les racines de l'idéologie fasciste. Alors, l'idéologie fasciste, du coup, pas du tout dans le sens d'Étienne Chouard, qui n'a pas de culture historique, puisque les mouvements, les premiers mouvements qui se sont réclamés du fascisme, notamment, par exemple, en France, c'est le parti fasciste de Georges Valois, qui est fondé dans les années 20, et qui est, dont le programme est le suivant, c'est-à-dire union de la classe ouvrière et du bon capital productif national contre le méchant capital financier international. Alors, ça, c'était une précision pour, sur le concept de fascisme. Après, pour Jif Sternel, cette origine, disons, d'une volonté affichée d'un dépassement du clivage gauche-droite, elle s'est réalisée un peu matériellement au moment du boulangisme. Donc, il y a une crise qui intervient au milieu des années 1880. Et il y a un général, le général Boulanger, qui a un succès populaire assez important, qui gagne plein d'élections et tout ça, et qui devient une espèce de force montante face à une république qui est assez mal, encore assez mal installée et qui est liée à plein de scandales, de corruption, qui finalement ne fait pas beaucoup de réformes sociales et tout ça. Et il y a une partie de l'extrême-gauche qui va être attirée par les idées du général Boulanger, une bonne partie de l'extrême-gauche française, y compris même des gens qui vont fonder le marxisme en France, comme Jules Guesde. Voilà. Et du coup, au nom du fait finalement que le général Boulanger balayerait la République bourgeoise et au nom du peuple, et donc du coup ce serait quand même quelqu'un de progressiste, même si évidemment ils n'adhéraient pas à toutes ces idées. Mais voilà, et ça, ça a créé une espèce de précédent historique qui a fait qu'il y a eu aussi certaines équivocités de la gauche et de l'extrême gauche au moment de l'affaire Dreyfus. Il y a beaucoup de gens, l'extrême gauche a mis très longtemps à se rallier, non pas tellement à la défense d'Alfred Dreyfus, qui était victime d'un projet injuste, mais qui n'était pas non plus un révolutionnaire, et qui ont eu beaucoup de mal à attaquer ce qui était à la racine de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire l'antisémitisme. Et Jaurès, par exemple, à un moment, il y a eu un regain d'antisémitisme en Algérie, à la fin du 19e siècle, et il disait, au fond, les juifs, c'est des usuriers, ils l'ont quand même bien cherché, c'est juste que c'est des masses un peu égarées, mais au fond, elles cherchent, comme nous, la critique du capitalisme. Et disons que, après, si on continue tout au long de la période historique en France, ça va donner... déjà dans les années 10, il y a des rapprochements, il y a une toute petite frange du syndicalisme libertaire, du syndicalisme révolutionnaire qui va basculer dans l'antisémitisme. Je crois que ça s'appelait Terre libre. À mon avis, ça me paraît important de dire que Chouard est l'aboutissement de cette histoire. Et à mon avis, je pense qu'il ne faudrait pas céder à la tentation de dire c'est uniquement de la faute de l'extrême droite. En fait, l'extrême droite a pu, être confusionniste, entre guillemets, c'est-à-dire en appeler à une transversalité, la réunion, la réconciliation, comme le site Égalité-Réconciliation l'indique. Elle a pu le faire parce qu'il y a eu des précédents historiques où la partie de la gauche qui n'est pas internationaliste, qui n'est pas libertaire, qui n'est pas farouchement opposée à l'antisémitisme, etc., la gauche nationale étatiste, focalisée sur une critique de la finance et tout ça, et qui est malheureusement encore aujourd'hui la gauche dominante, cette gauche-là a parfois été tentée. Et on peut prendre plein d'exemples des gens d'extrême gauche qui sont passés du côté du général Boulanger, qui était quand même clairement de droite, des gens qui ensuite ont pris position contre Dreyfus, aux côtés de toute l'extrême droite antisémite française, une petite partie du syndicalisme révolutionnaire qui est devenu antisémite, et puis après, si je continue, dans les années 30, des gens comme par exemple Doriot, qui ont quitté le Parti communiste français, et qui ont fondé des partis néo-fascistes et tout ça. Et puis après, bon, il y a toute la collaboration et tout ça. Je pense que c'est pas la peine de faire une histoire non plus hyper longue de tout ça. Enfin, en gros, ça, c'est la, Jeff Sternell s'arrête à peu près en 40, quoi. Donc, c'est un petit peu pour, pas résumer son livre, mais voilà, pour donner une idée. Et du coup, d'un côté, il y a cette gauche nationale étatiste, pas claire sur l'antisémitisme, focalisée sur la critique de la finance, qui se laisse attirer par l'extrême droite. Et d'un autre côté, je pense que c'est important de préciser qu'il y a de l'autre côté un processus qui est à partir de la fin du 19e siècle, l'extrême droite, qui était majoritairement réactionnaire, catholique, monarchiste, anti-républicaine et tout ça, va opérer une refonte, notamment par exemple quelqu'un comme Drummond, qui va jouer un rôle très important avec le best-seller qui a été La France juive, et qui va inaugurer, alors bon, c'est toujours difficile de dire quand est-ce que naît cette espèce de populisme transversal, enfin, on peut, si on suit Sternel, ça naît à peu près à ce moment-là, et quelqu'un comme Drummond qui va en appeler au peuple contre la République juive, franc-maçonne, quelqu'un qui vient d'extrême droite, Drummond, mais qui va le faire non pas au nom de l'ancien régime, et bon, bien sûr, il le fait un peu au nom du catholicisme quand même, mais pas au nom de l'ancien régime. Donc lui, il prône une espèce de république sociale, débarrasser les juifs.
Mais exactement, voilà. Comme le tournant nouveau que prend le FN à partir des années 95, où il passe d'une position plutôt libérale et très conservatrice du point de vue des valeurs à une critique du libéralisme et un espèce de discours pseudo-anticapitaliste, quoi. Puisqu'en fait, le partage ne se fait plus entre des valeurs qui seraient des valeurs de gauche et d'autres qui seraient des valeurs de droite, mais entre cette idée de peuple-oligarchie, donc on définit l'ennemi d'un simple point, du point de vue de, la, de ce qui serait proche de la finance. Et c'est ce qui amène en fait Étienne Chouard, dans une vidéo, j'ai noté ses propos, à donner sa définition du fascisme. Et donc il dit les fachos, ce sont les possédants, les industriels, les banquiers et les firmes transnationales. Et le fascisme, c'est pas le racisme, et le racisme est un problème secondaire, c'est pas un problème politique central. Et en fait, ça contribue à brouiller complètement les marqueurs politiques, puisqu'il refuse, il le dit, alors là je vous le cite encore, il dit « Je refuse le qualificatif d'extrême droite pour les racistes, les antisémites, les catholiques traditionalistes et les partisans de la peine de mort et les partisans de l'interdiction du droit des femmes à l'avortement. » Donc il considère, et je vous le cite encore, que le FN est à gauche et que le danger, ce n'est pas Le Pen. Donc on a un brouillage comme ça des marqueurs politiques avec le déplacement du clivage gauche-droite vers un clivage peuple-oligarchie qui fait qu'on n'est plus capable de distinguer des positions politiques claires.
Et ouais, et alors là, je pense que effectivement, on pourrait se dire ce que dit Étienne Chouard. Bon, bah voilà, lui, il a envie de placer, il a envie de dire que la finance, les industriels et les possédants, c'est des fascistes et que le FN est à gauche. Et on pourrait presque se dire, eh ben pourquoi pas, c'est son point de vue. Le problème, c'est que historiquement, ce n'est pas vrai. Et en fait, ce n'est pas vrai du point de vue des acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les acteurs historiques ne se définissent pas comme ça. Jean-Marie Le Pen n'a jamais dit qu'il était de gauche. Jean-Marie Le Pen sait très bien qu'il est de droite. L'extrême droite se dit rarement d'extrême droite, d'ailleurs. Elle se dit plutôt de droite. Mais clairement, le parti, le Front National, c'est clairement quelque chose qui se rattache historiquement à la droite, qui n'a des références historiquement, bon, par exemple pour Jean-Marie Le Pen, qui ne sont que des références de droite, qui sont des références de collaborationnistes, Charles Maurras et tout ça, des gens qui se disaient explicitement de droite et qui, aujourd'hui, enfin, disons, leurs héritiers, passent sur Radio Courtoisie, qui se dit bien la radio de toutes les droites, mais bien de toutes les droites, pas de la gauche. Voilà. Et du coup, ça n'a... Et d'autre part, ça, c'est pour ce qui est du clivage gauche-droite. Donc, les gens qui... Pour résumer l'argument, c'est que les gens... par exemple, les gens du Front National, historiquement, se sont définis par rapport à une tradition intellectuelle de droite, se sont définis comme étant de droite, et ce n'est que récemment qu'ils ont tenté de brouiller les cartes et de dire que finalement, on était juste patriotes. Et c'est là, à mon avis, c'est peut-être une parenthèse sur laquelle on pourra revenir, c'est cette volonté de dire, en fait, on n'est plus de droite, on est juste patriotes. À mon avis, c'est pas juste... Enfin, en partie, c'est une supercherie. Mais en fait, ça se base quand même sur des éléments concrets, c'est-à-dire qu'il y a des éléments patriotiques, entre guillemets, interclassistes, populistes, dans la gauche. Et évidemment, l'extrême droite en profite. Et d'autre part, sur la question du fascisme, historiquement, les partis qui se sont réclamés du fascisme ne sont pas des partis de possédants, d'industriels et de banquiers en première instance. Ensuite, évidemment, à partir du moment où les partis fascistes ont été proches d'arriver au pouvoir, évidemment qu'il y a certains industriels ou certains banquiers qui les ont financés. Mais ce qu'explique bien Jeff Sternal, c'est que l'idéologie fasciste, au début, c'est un mouvement, entre guillemets, populaire. Populaire dans le sens que, par exemple, Daniel Guérin parlait des plébéiens pendant la Révolution française. C'est pas exactement des éléments populaires, spontanés, mais disons, c'est des agitateurs politiques qui sont pas, en général, des grands aristocrates ou des grands banquiers, mais qui sont plutôt des militants politiques. Et par exemple, le premier parti fasciste en France, le parti de Georges Valois, le premier parti fasciste, créé en 1925, a succombé parce que justement, il n'arrivait pas à tirer de fond des industriels et des banquiers. Et donc, ça a été un fascisme qui a raté. Parce que, justement, ils avaient un discours un peu trop... critiques du grand capital, qui sont un peu les poncifs de l'idéologie d'extrême droite, critiques du grand capital, critiques contre et revalorisation de l'artisanat, critiques du capital financier et tout. Et en fait, ils l'ont pris un peu trop au sérieux, d'une certaine façon, et du coup, ils se sont retrouvés sans financement et se sont effondrés. Donc, le premier parti fasciste français était un parti qui, parce que justement, il a correspondé, du coup, parce que justement, il n'a pas su attirer les possédants, les industriels et les banquiers, qui s'est effondré. Faute de structure financière. Ce qui fait que, par exemple, Hitler, dans les années 20, lui, au début, était parti sur un discours un petit peu comme Valois, et petit à petit, pour attirer les financements, il a commencé à dire, bon, on la met un peu en veilleuse sur la critique du grand capital et tout, et on se focalise juste sur le capital rapace, juif, et tout ça, pour attirer... En fait, je dirais que le fascisme, c'est pas un parti, c'est pas du tout quelque chose qui vient des possédants et tout ça, mais c'est quelque chose qui... C'est un mouvement... qui vient d'ailleurs, qui vient beaucoup, par exemple, pour le parti nazi, au niveau de la sociologie, des classes moyennes déclassées, des intellectuels ratés, c'est le parti nazi, c'est ça, hein, c'est des classes moyennes déclassées et des intellectuels ratés, et qui, à un moment, tempère un peu leur discours anticapitaliste tronqué, puisque déjà, ils ne visent pas tout le capitalisme, et qui finissent par juste critiquer... le capital juif pour attirer des financements. Mais ça, c'est que dans un deuxième temps. Et en fait, ce qu'explique très bien Jeff Sternal dans son livre, c'est que quand la bourgeoisie n'a pas d'autre choix que de faire appel à ces mouvements qu'il ne contrôle pas, qui sont instables, en lesquels il n'a pas vraiment confiance, parce qu'il peut leur échapper, c'est que lorsque la bourgeoisie est contrainte et forcée de faire appel à ces mouvements fascistes, qu'elle les finance et qu'elle fait appel à eux. Mais, par exemple, en France, jusqu'en 1940, la bourgeoisie n'a pas eu besoin de faire appel au fascisme. Et du coup, elle a préféré rester, s'appuyer sur la droite traditionnelle. Et ça lui a très bien réussi. Et d'ailleurs, en France, Sternal explique que le régime de Vichy n'est pas tout à fait un régime fasciste, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de la droite traditionnelle. Il n'y a pas eu de côté... Il y a un petit côté révolutionnaire chez Vichy, mais globalement, c'est plutôt conservateur et réactionnaire, alors que le fascisme, lui, se veut révolutionnaire. Et du coup, voilà, en fait, en France, jusqu'à aujourd'hui, la bourgeoisie n'a jamais soutenu, disons au moins massivement, le fascisme. A soutenu à un moment, effectivement, un régime collaborationniste, réactionnaire. Mais par exemple, les fascistes, qui existaient dans le régime de Vichy, ont toujours été minoritaires, ils n'ont jamais eu le pouvoir. Voilà, la bourgeoisie n'a jamais eu besoin de les appeler. Donc à mon avis, ce que dit Chouard est complètement faux.
Et c'est ce qui lui permet du coup de... comme de mettre sur le même plan le Front National et le parti de Mélenchon, la France Insoumise, au nom justement de cette seule critique du capital improductif qu'on retrouve à la fois effectivement dans le FN et à la fois dans le Front de Gauche. Mais que du coup ça voudrait dire que quelque part il y a plus en germe du fascisme par exemple dans une gauche, dans l'intercapitalisme tronqué, que dans du hollandisme ou du sarkozisme quoi. Puisque il y a cette idée quand même que c'est la critique de la finance. Enfin, je veux dire, le discours de Marine Le Pen, c'est presque le même que Jean-Luc Mélenchon sur le point de vue de la critique économique, tu vois. Et elle a un programme économique de gauche, enfin de mélenchoniste, quoi.
Alors,
C'est-à-dire que finalement, on a plus à craindre d'un Jean-Luc Mélenchon que d'un François Hollande, tu vois. À la fois, c'est un peu troublant politiquement.
Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, moi, je nuancerais un petit peu l'idée que Marine Le Pen, il y a eu un tournant antilibéral du Front National.
Ouais.
Il y a un tournant contre le libéralisme mondial, mais Marine Le Pen se revendique expressément d'un libéralisme national. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet qu'il n'y ait pas d'éclatement du parti, parce que si elle était anti-libérale, toute la frange libérale se serait barrée. Du coup, elle critique l'ultra. D'ailleurs, elle ne critique jamais le libéralisme. Elle critique en général l'ultra-libéralisme ou le libéralisme international, mais elle critique. Elle est favorable à un libéralisme national avec un État stratège. Et il faut quand même se souvenir que, du coup, son modèle, un peu, c'est la France des années 60 de Gaulle, avec son État stratège. Et, bon, même si, effectivement, c'était beaucoup plus étatiste qu'aujourd'hui, De Gaulle, même s'il était dirigiste, n'était pas non plus antilibéral. Enfin, voilà, et lui, il voulait qu'il y ait des champions nationaux, des grandes entreprises, et ce n'était pas un partisan, par exemple, de la nationalisation des moyens de production. Les grandes entreprises n'ont été nationalisées que sous Mitterrand en 80. Et après, d'autre part, sur la question de, oui, évidemment, on peut dire que Mélenchon, et ça peut paraître très choquant, et c'est là qu'on voit la complexité des choses, bien sûr, Mélenchon, et même si je pense qu'il en est quand même assez loin, mais il est plus proche du fascisme que Hollande. Et en ça, je pense que c'est important de comprendre ce que c'est que le fascisme. C'est-à-dire que le fascisme, c'est un mouvement révolutionnaire, mais qui veut revenir à l'ordre. Voilà, donc c'est pas un mouvement révolutionnaire comme les révolutionnaires d'extrême gauche qui veulent fonder un nouvel ordre. Le fascisme, c'est le retour à l'ordre, mais par une voie révolutionnaire. Par exemple, la bourgeoisie traditionnelle, les partis de droite n'y arrivent pas, que les juifs nous envahissent, etc., etc. Boum, on fait une révolution. La révolte dans l'ordre, d'une certaine façon, et pour un retour à l'ordre. Et ensuite, une de ces autres caractéristiques... Donc, d'une certaine façon, Hollande n'est pas du tout révolutionnaire, Mélenchon l'est un petit peu plus, entre guillemets, donc, de ce point de vue-là. Et ensuite, il est vrai que, par exemple, le fascisme vante l'alliance des classes nationales contre le grand capital financier international qu'il assimile...
aux Juifs.
Tendanciellement aux Juifs. Et de ce point de vue-là, évidemment, Hollande n'est pas du tout un critique du grand capital financier international. C'est plutôt d'ailleurs plutôt un ami du grand capital financier international. Voilà, c'est en tout cas... voilà, les différents partis soutiennent parfois différentes fractions de la bourgeoisie. Bon, pour le coup, les gens comme le parti de Hollande ou Sarkozy et tout soutiennent plutôt cette fraction-là de la bourgeoisie. Et du coup, de ce point de vue-là, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, est beaucoup plus proche de cette critique du grand capital financier international. Après, il y a beaucoup de caractéristiques du fascisme qu'on ne retrouve pas chez Mélenchon. Et de toute façon, le fascisme ne peut pas... je pense que c'est important non plus de préciser ce genre de choses. Le fascisme ne vient pas de la gauche. Le fascisme vient de l'extrême droite. Mais... en venant de l'extrême droite, il arrive dans ces eaux troubles où il partage finalement pas mal de thèmes avec l'extrême gauche. Mais après, Mélenchon, évidemment, n'est pas fasciste. On peut lui reprocher plein de choses. On peut faire une critique radicale de cette gauche nationale étatiste. D'ailleurs, on l'a fait plein de fois. Mais je pense qu'on ne peut pas lui reprocher d'être fasciste. Mais par contre, dans ce sens, et c'est là qu'on voit que, en fait, le fascisme, ce n'est pas le seul ennemi. C'est-à-dire qu'il y a aussi, par exemple, la forme néolibérale du capitalisme, et pas largement plus souhaitable que la forme fasciste. À l'inverse, contre... voilà, et du coup, il faut pas non plus juste penser en termes antifascistes. Mais après, d'un autre côté, je finis juste là-dessus, d'un autre côté, contrairement à ce que dit Chouard, on peut pas se contenter de critiquer la forme ultralibérale ou néolibérale du capitalisme et de vanter toutes les autres formes dégueulasses que, d'une certaine façon, il approuve.
Donc peut-être que, puisqu'on parle de ça, on peut parler de l'obsession que Chouard nourrit pour la question de la création monétaire et de la monnaie. Puisque du coup, il s'attaque essentiellement aux banquiers, à la création monétaire et à la dette, mais jamais aux structures capitalistes, aux rapports de production, à la question du salariat, etc. Et peut-être que tu peux dire un mot là-dessus, sur de quoi cette obsession pour la création monétaire est un symptôme.
Ouais, alors évidemment, donc du coup, ça joue un rôle très important dans la pensée de Chouard, la question de la souveraineté monétaire. Ce qui fait que notamment il accorde une très grande importance à des explications conspirationnistes de la création monétaire, notamment voilà, le complot de la Banque de France, le complot de la Réserve fédérale, voilà, qui sont basés pas toujours sur des sources très sûres. Et là-dessus, je ne vais pas trop développer parce qu'on en a déjà parlé dans une autre émission avec Léon de Matisse. C'était la deuxième partie de l'émission qu'on a fait autour de son livre « Crise ». Et en gros, pour faire très simple, la création monétaire dans le capitalisme, elle, c'est une forme d'avance au processus de valorisation qui permet, du coup, avec l'argent qui est créé sous forme de crédit, effectivement, ce crédit est employé pour valoriser du capital. Et ensuite, au bout du compte, une fois que les entrepreneurs ont investi, qu'ils ont récupéré de l'argent et qu'ils ont remboursé à la banque commerciale, la banque commerciale elle-même rembourse à la banque centrale. Et la banque centrale, c'est quelque chose que les conspirationnistes comme Chouard, par exemple, ne comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas la comptabilité en partie double. Et bien, la banque centrale, en fait, quand elle émet 100, c'est pas elle les crée effectivement à partir de rien, mais dans son bilan, ces 100, ils sont à la fois un actif et un passif. Donc un actif dans le sens où elle a une créance qui vaut 100 et donc qui garantit. Mais elle a un passif. C'est-à-dire un passif, c'est quelque chose qui, voilà, elle a créé 100 à partir de rien. Donc elle a quelque chose qui pèse dans son bilan. Et c'est une fois que les 100 reviennent dans la banque centrale que du coup, l'actif et le passif s'annulent mutuellement. Et voilà, bon, ça c'était pour en parler rapidement.
Et alors lui, par ailleurs, il renvoie une des vidéos qui est structurante pour lui, sur son blog, il n'arrête pas de renvoyer. C'est une vidéo de Paul Grignon, qui s'appelle « L'argent-dette », et où là, ça raconte vraiment l'histoire de la création monétaire comme une création ex nihilo, comme s'il n'y avait pas de travail, comme si la valeur, le travail, l'argent étaient complètement déconnectés de la dynamique de création monétaire. Et c'est des sources qui l'amènent à défendre. Alors il y a une vidéo où il dit que, donc pour lui, la crise n'est évidemment pas structurelle, c'est pas une crise de production de valeur, c'est pas une crise de la raréfaction du travail. Pour lui, c'est un piège politique, et c'est un piège qui est notamment créé du fait que les États ne peuvent pas emprunter auprès de la banque centrale, et donc ils doivent emprunter auprès de banques privées, donc ils perdent leur souveraineté. Et ce piège a été pensé, orchestré sciemment par certaines élites, etc. Donc ça l'amène à avoir une focalisation sur la question de la création monétaire qui est absolument dingue et du coup qui rend aucune perception correcte de la crise possible, quoi.
Ouais, alors du coup, je pense que c'est important de... Bon, je pense qu'effectivement, Étienne Chouard n'a rien compris à la création monétaire. Et d'ailleurs, Paul Grignon non plus, ce qui est quand même plus gênant pour quelqu'un qui prétend avoir réalisé un documentaire sur cette question, puisque effectivement, ils n'ont pas compris la comptabilité en partie double et le fait que à chaque fois qu'on crée 100, ça s'inscrit à la fois à l'actif et au passif, et qu'une fois que l'argent est remboursé à la banque centrale, c'est pas l'argent de la banque centrale, se les met de côté pour aller faire la fête après, quoi. Sinon, ce serait merveilleux pour la banque centrale. Sauf que ce qu'ils oublient...
Non, mais ce qu'il explique, c'est qu'on peut prêter de l'argent qu'on n'a pas, c'est-à-dire que ce qu'il appelle le système des réserves fractionnaires, c'est que si tu as un capital de base qui est 1, il y a un rapport de 1 à 7 qui fait que, en fait, tu peux prêter 7 euros pour 1 euro de trésorerie, qui est donc une création, en fait, qui est effectivement une création monétaire.
Mais effectivement, ce qu'on avait dit dans l'émission avec Léon de Matisse, ce que je rappelle rapidement, c'est que, en fait, cette possibilité de créer plus d'argent qu'il n'y a d'argent qui est, disons, un résultat d'une création de valeur passée, où il y a eu un processus de production, une vente de marchandises réussie et tout ça. C'est tout simplement parce qu'à un moment, pour faire des investissements gigantesques, on ne peut plus simplement s'en tenir aux produits de, des recettes du cycle de valorisation précédent. Et il faut donc emprunter. Il faut créer de la monnaie qui, pour l'instant, ne représente pas de valeur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une création ex nihilo, mais qui doit, in fine, en créer et donc se réaliser. Et une fois que l'entrepreneur aura, par exemple, pour parler d'un cycle de valorisation réussi, l'État a créé énormément d'argent. Bon, alors, ce qui est d'ailleurs assez bizarre, c'est que c'est des gens qui critiquent la création ex nihilo d'argent, et puis qui, d'un autre côté, pensent que l'État devrait faire de la planche à billets. Bon, enfin, c'est un peu contradictoire, mais enfin bon. Voilà. Donc, ce qui est un problème, en fait, c'est quand la planche à billets est créée par des banques commerciales et pas quand c'est des banques d'État. Eh, mais en fait, les modalités sont un peu différentes. Et certes, les banques privées effectivement font un intérêt au passage, un profit au passage. Mais globalement, les modalités sont globalement les mêmes. C'est-à-dire que on prête dans l'économie pour que l'économie réalise un cycle de valorisation. Et quand ce cycle de valorisation réussi, que les marchandises ont bien été vendues au bon prix, que voilà, tout ça. Ensuite, par exemple, pendant les 30 Glorieuses, eh bien, l'argent va être remboursé d'abord à la banque commerciale, et puis ensuite, elle est remboursée à la banque centrale privée ou à la banque centrale publique, peu importe, et ces banques centrales vont détruire cet argent. Voilà. Alors, d'une certaine façon, comme elles en créent toujours plus qu'elles n'en détruisent, on a l'impression qu'elles en créent toujours plus, mais en fait, elles le détruisent. Et pour une raison très simple, mais évidemment, les conspirationnistes ont un peu de mal à comprendre ça, c'est que, pour une raison très simple, le système fonctionne comme ça, parce que si l'argent était créé à volonté, était créé à volonté de manière complètement ex nihilo, sans aucune contrepartie, sans aucun gage, parce que là, il y a un gage, c'est quand même que
Une anticipation de création de valeur dans le futur.
C'est ça. C'est que la créance de 100, elle est censée représenter que, bah, il va bien y avoir une création de 100 dans l'économie. Et ce que les fois où l'État ou les banques centrales privées, bon, ça arrive plus rarement.
Oui, ça crée une inflation terrible.
Ça crée une inflation terrible. Et par exemple, pour le cas de la France, il y a eu le système des assignats. Et donc, on a créé énormément de monnaie sous forme de crédit. Et c'est l'État qui l'a fait, hein. C'est pas les méchants banquiers juifs, hein. C'est l'État français, la République française, qui a créé énormément de monnaie sous forme d'assignats, qui était gagée sur la vente des biens nationaux. Donc, d'une certaine façon, sur la valorisation à travers la vente de terres, qui avait été confisquée à la noblesse et au clergé. Sauf que, en fait, bon, à force que la bourgeoisie se fasse des rabais et finalement vende ces terres pas chères du tout, la valorisation, entre guillemets, si tant est qu'on puisse parler de valorisation, de ces terres a été extrêmement faible. Du coup, toute cette création monétaire n'a pas, et c'est ça qui est important, n'a pas réalisé une valeur suffisante. C'est-à-dire que c'était une anticipation de valeur future qui ne s'est pas réalisée. Et donc, du coup, la monnaie ne valait plus rien et la monnaie s'est effondrée. Et c'est ce qui arrive périodiquement avec les crises financières en ce moment. Enfin, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce qui est important, pourquoi est-ce que je prends l'exemple des assignats, c'est à dessein, parce que justement, Chouard relaie sur son blog une vidéo avec Henri Guillemin, où Henri Guillemin explique, bon, pas qu'Henri Guillemin soit d'extrême droite et tout ça, mais enfin, Henri Guillemin n'a pas très bien compris la création de la Banque de France. Et en gros, Henri Guillemin dénonce le fait que la Banque de France a été créée par des financiers franco-suisses. Voilà, et que ça a été créé sous la forme d'une banque privée.
Peut-être que pour les auditeurs, tu peux rapidement situer Henri Guillemin. Qui est Henri Guillemin ?
Henri Guillemin, donc, c'est un historien républicain qui a été gaulliste à un moment et qui est plutôt assez représentatif finalement de cette gauche nationale étatiste qui, du coup, est mobilisable aussi par l'extrême droite. Et donc Henri Guillemin, dans cette vidéo, expliquait que, en gros, voilà, Napoléon avait filé la création monétaire en France à des banquiers franco-suisses. Donc, ce qui, évidemment, du point de vue de la gauche nationale étatiste comme de l'extrême droite, est un scandale. Sauf que ce qu'il oublie de préciser, c'est que juste avant, il y avait eu le scandale des assignats. Et le scandale des assignats, il révèle quoi ? C'est que, en fait, le capital, parce qu'évidemment, on parle là ici de capital, le capital ne fait pas confiance, fait moins confiance quand c'est l'État qui crée la monnaie. Parce que l'État ne rembourse pas toujours. Parce que de la même façon que l'État ne rembourse pas toujours ses dettes, parfois l'État crée beaucoup trop de monnaie qu'il n'est nécessaire pour bah, par exemple, pour financer la guerre. Les assignats, ils ont été créés pour financer la guerre. Et du coup, ils ont laissé, donc tous les détenteurs de capitaux n'ont plus confiance dans une monnaie gérée par l'État. Donc du coup, ils veulent la gérer eux-mêmes. Et Napoléon, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pas parce que c'est un méchant comploteur juif, mais tout simplement parce qu'il veut leur capital. Il veut le capital des Suisses. Et le enfin, il veut le fric des capitalistes suisses et des capitalistes français. Donc, il accepte. Donc, en fait, le deal, c'est « Ok, vous contrôlez la création monétaire. Comme ça, vous ne serez pas lésés et vous vous ferez un peu de fric dessus. Et en contrepartie, vous m'amenez vos capitaux. Je peux payer mes soldats. Voilà, et c'est pas la crise du budget et je peux faire mes guerres et tout ça. » Et du coup, voilà, ça, c'est quelque chose que... Et pour revenir du coup à Étienne Chouard, c'est quelque chose qui ne saisit pas, c'est-à-dire que, par exemple, pour prendre l'exemple des États-Unis, j'en ai déjà parlé dans l'émission avec Laurent Matisse, mais je pense que c'est quand même important de préciser, parce que là, en l'occurrence, il a quand même fait des vidéos complètes sur le complot de la réserve fédérale, dont il y a des éléments factuels qui peut-être sont vrais, peu importe. Mais sauf que c'est présenté comme un complot de vilains banquiers qui cherchent à s'approprier un truc qui est en fait merveilleux, qui est la création monétaire. Alors que la création monétaire, en fait, en soi, elle sert juste à financer le capitalisme et à faire que la majorité de la population soit exploitée. On ne voit pas en quoi est-ce que c'est particulièrement positif. Mais enfin bon. Pourquoi est-ce que la réserve fédérale, elle est créée? Eh bien, en fait, c'est tout simplement une lutte. Et ça, c'est ce que les gens d'extrême droite oublient de préciser. C'est une lutte entre deux fractions du capital financier. Une qui représente la grande banque new-yorkaise et l'autre qui représente les banques régionales intermédiaires qui créent jusque-là, jusqu'aux années 1910 aux États-Unis, jusqu'à la fin des années 1900 plutôt, la monnaie aux États-Unis. Et en fait, c'est tout simplement la grande banque qui arrive à s'arranger avec des politiciens et tout ça, en leur promettant un système monétaire plus stable, parce que basé sur les ressources financières du grand capital. Et un système, du coup, qui aurait soi-disant plus d'efficacité et tout ça. Moi, je ne prends pas position sur ce truc, je m'en fous. Mais c'est important de préciser que ce qui est présenté comme un vilain complot est en fait une bataille entre deux formes, entre deux fractions du capital financier, qui sont aussi méprisables les unes que les autres, parce que les banques régionales et tout ça aux États-Unis, elles demandaient des intérêts aussi très importants, et elle baisait aussi tous les gens qui aiment beaucoup l'extrême droite, c'est-à-dire les fermiers blancs et tout ça. Enfin voilà. Et du coup, voilà. Et on en fait tout un pataquès. Mais en soi, la monnaie, ça sert simplement dans le capitalisme, sous sa forme de crédit, à anticiper, à permettre, sous forme d'anticipation de survaleur, à permettre d'initier un cycle de valorisation. À partir d'une certaine époque du capitalisme, la monnaie sous forme de crédit est absolument nécessaire. Quand elle est créée par l'État, ça a des avantages, évidemment, pour l'État. Mais ça peut rebuter un peu le capital financier. Surtout quand, par exemple, dans les années 70, c'est la crise et tout ça. Hein, parce qu'on parle de la loi de 73, mais cette loi de 73, elle est un peu en lien aussi avec des difficultés économiques. Enfin bref, c'est pas pour justifier, hein, mais c'est important de le replacer. Tout ça fait partie de l'histoire du capitalisme. Et que ce soit... Évidemment, pour l'État, ça a beaucoup plus d'avantages de contrôler la masse monétaire, mais ça peut faire fuir les capitaux. Donc aujourd'hui, on nationalise, on revient en francs et on revient à une forme de souveraineté monétaire, mais les capitaux français se barrent. Ils se barrent directement et ensuite, les souverainistes seront là à minauder... rendez-nous notre capital, voilà, et c'est tout. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, le capital est internationalisé. Mais même en 1800, ils pouvaient aller se planquer en Suisse. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment... c'est deux stratégies à l'intérieur du capitalisme, la souveraineté monétaire ou confier la création monétaire à une banque centrale indépendante, entre guillemets, bon, même si en fait, elle est très liée au capital financier. Mais en soi, c'est deux options à l'intérieur du capitalisme et ça n'a rien d'émancipateur puisque de toute façon, ça sert à financer le même système d'exploitation et de domination impersonnelle.
Qui lui reste inchangé et non critiqué par Étienne Chouard.
Alors après, peut-être pour approfondir un petit peu
l'histoire de la monnaie. En fait, on voit bien que derrière ce souverainisme monétaire, donc qui fait abstraction, voilà, des rapports de classe et des structures capitalistes qui ne les interroge pas, et qui historiquement est quand même un vieux truc de l'extrême droite américaine notamment, hein, voilà, l'histoire de la monnaie fondante. Oh bah avant, la monnaie c'était du solide, c'était gagé sur de l'or. Sauf que bon, l'or, on n'en crée pas suffisamment, ça représente pas suffisamment de valeur pour gager la monnaie. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que le système monétaire basé sur l'or a été abandonné, parce qu'à un moment, il fallait pour que la valorisation se poursuive, ou du moins qu'elle ne se casse pas la gueule, il fallait beaucoup plus de création monétaire que ce que le permettait un système fondé sur l'équivalence entre la création monétaire et les réserves d'or.
Et les talons.
Voilà. Et du coup, à un moment, c'était nécessaire. Enfin, c'est important de le préciser. Mais après, tout ce souverainisme monétaire va beaucoup avec une critique, finalement, des banquiers, qui sont vus comme, ça c'est un thème qui est historiquement d'extrême droite d'ailleurs, le thème des banksters. Voilà, finalement, les banquiers seraient des vilains spéculateurs qui s'enrichiraient sur la base, enfin qui s'enrichiraient sur le dos de tout le monde, les gentils industriels et les gentils prolétaires. Bon, alors qu'en fait, en réalité, si on critique les ponctions qui sont effectuées, enfin c'est-à-dire ce que Marx appelle le surtravail, c'est-à-dire c'est-à-dire la création de valeur qui excède le salaire. Mettons au bout de 3 heures, le travailleur ou la travailleuse a remboursé son salaire, il ou elle travaille 5 heures de plus. Sur ces 5 heures, en l'occurrence, il y a une partie qui va aller au capital financier sous forme d'intérêt. Il y a quand même une bonne partie qui va aller au capital industriel. Bon, ça pose pas trop de problèmes à l'extrême droite, manifestement. Mais pour en revenir à cette critique des banquiers, en fait, c'est une critique, c'est plus compliqué que simplement une critique de la finance. Parce qu'en réalité, quand la gauche nationaliste ou l'extrême droite critique la finance, c'est pas exactement toute la finance qu'elle critique. C'est en réalité ce qu'ils appellent l'usure, la spéculation. Et en fait, pour eux, la bonne finance, c'est la finance qui finance le capital productif. Voilà. En fait, c'est un peu comme le rêve du bon politicien, pas corrompu. Tout ça. Donc, en gros, ce serait une finance qui, alors qu'elle aurait la possibilité de spéculer, se contenterait simplement d'un taux de rendement de 3% sur une industrie moribonde. Bon, c'est évidemment très très utopique. Et c'est là qu'on... Et c'est pour ça que d'ailleurs que tous les partis fascistes, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, en fait, se sont contentés de s'acharner sur les juifs, notamment. Et en fait, la finance allemande, par exemple, pendant les années 30 et les années 40, a relativement prospéré parce que la finance est indispensable dans le système capitaliste pour justement financer la valorisation du capital. Donc en fait, je pense que le nœud de cette critique de la finance, en réalité, puisque c'est des gens qui ne veulent pas du tout sortir du mode de production capitaliste, comme la finance est indispensable au mode de production capitaliste, en réalité, c'est quelque chose dont on va parler. C'est en réalité une critique, c'est une marque, je pense, centrale de ce qu'on peut appeler l'antisémitisme structurel.
Derrière les portes du Louvre se trouve le Saint-Grouve. À 40 pas de la Joconde, il y a une flèche au stylo rouge. Il faut s'y faufiler de nuit, si possible d'un passe-move, ou que le gardien te couvre, sinon c'est l'alerte rouge. On nous cache des choses, depuis Adam et Ève, le lièvre et la tortue, Paris sur le lièvre. Le vrai, le faux, le vraiment faux, le vrai, c'est faux. C'est vraiment le pogo de la théorie du complot. Certains avaient des allumettes pendant la guerre du feu. Le copain d'une copine a côtoyé Sophie Neveu. Y'a jamais eu personne qui a mis le pied sur la lune. On dit que c'est Edith Piaf qui a écrit mon truc en plume. On dit que sur notre planète les petits hommes verront la télé. Et qu'ils sont fascinés par le JT de Jean-Claude Bourré. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube.
tas de secrets d'État sont là devant toi. Un soir dans une ruelle, un homme étrange me déclara que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant
Pompidou.
Le Dalai Lama, Serge Lama, Alain Delon sont partis au Tibet pour leur chanter la Madelon. On dit qu'il y a des gens qui sont montés dans des soucoupes, qui ont bu du jus de coco, qu'ils ont coupé en coupe. Juste parce qu'il a parlé du monstre de Roswell, l'armée américaine s'est séparée de Jacques Pradel. Tout se mélange dans ma tête depuis l'eau. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Code. Tout se mélange dans ma tête depuis l'eau. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Code.
Chez la et la Joconde était des hommes, qu'il y aurait un bug pour fêter le millénium, que certains boulangers font des babas au polonium, qu'ils enrichissent à l'uranium et qu'ils arrosent avec du rhum.
Il y a de l'info, de la désinfo et de la désinfo, tout cela n'est pas faux. Dans les Simpsons, c'est qui a tué Kenny, mais la question que l'on se pose est qui a tué Kennedy. Dans l'ordre du temple solaire avant, je vois venir des pompiers avec des jerrycans d'essence. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube, je suis comme dans un chapitre de Da Vinci Code. Tout se mélange dans ma tête depuis l'eau. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Code.
Da Vinci Code.